des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon se penche sur les délais post-pandémie dans les dossiers criminels et il nous parle de l'effet Jordan qui menace. Il dresse un parallèle entre le système de santé et le milieu juridique où les juges, comme les médecins, sont extrêmement bien traités financièrement alors qu'on fait face à des pénuries de petits personnels, si vous me permettez l'expression, qui gagnent près de 10 fois moins que les privilégiés de ces mêmes systèmes. Ensuite, il revient sur la loi 96 qui sera adoptée aujourd'hui, mais qui sera sans doute rapidement contestée. À quoi ressembleront les contestations? Mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Parlons d'un Scandinave maintenant. On est sur la piste des archives toujours. C'est la série que tu fais dans le Devoir à partir des archives, donc le voyage de Père Calme au Canada.
Oui, un voyage assez inattendu en 1749 en Nouvelle-France. Père Calme, c'est un Suédois. Lui, dans le fond, il est mandaté par l'Académie royale des sciences de Suède pour explorer un territoire neuf où on pourrait trouver des plantes que l'on pourrait ramener en Suède pour les faire croître et au bénéfice du royaume de Suède. À l'origine, on pense l'envoyer en Islande, au Groenland et même en Mongolie, en passant par la Moscovie, le nom qu'on donnait à l'époque souvent à la Russie.
Ouais.
Finalement, on choisit l'Amérique du Nord. Lui, il débarque d'abord à Philadelphie, dans les provinces anglaises de l'Amérique du Nord. Et de là, il passe en Nouvelle-France en 1749, ce qui est assez rare quand même de passer d'un empire à l'autre comme ça. Surtout qu'il arrive juste après la guerre de succession d'Autriche. On est un an après cette guerre-là qui précède la guerre de la conquête. C'est une guerre un peu oubliée qui se termine sur un match nul. Et en remontant le lac Champlain, il voit des vestiges carbonisés de la guerre. Donc, il est très impressionné. Il voit aussi des serpents sonnettes qui l'impressionnent et qui lui fait peur un peu. Et il atteint finalement le Canada de l'époque, en arrivant au Fort Saint-Frédéric, à 200 km au sud de Montréal. Aujourd'hui, ça se trouve en territoire américain, dans l'État de New York, mais à l'époque, c'était l'entrée de la Nouvelle-France du Canada. Donc, toutes les plantes qu'il voit là-bas, autour du Fort Saint-Frédéric, il leur donne des noms un peu canadiens.
Et ça s'appelle comment maintenant, dans l'État de New York?
Crow Point, dans l'État de New York. C'est juste au nord du Fort Ticonderoga.
Okay.
Donc, c'est un endroit on voit encore les ruines de ce fort-là, qui sont toujours en place aujourd'hui. C'est un petit parc, là, un peu pas très aménagé. On se présente là, il n'y a rien vraiment.
Puis Ticonderoga, c'est Carillon.
C'est Carillon. C'est le fort qui a été reconstruit de zéro. Là, il y a beaucoup d'animation. C'est l'antithèse de l'ancien fort Saint-Frédéric, de ce que c'est devenu.
J'ai déjà visité Carillon. C'est impressionnant, quand même.
C'est un endroit à voir, absolument.
Ouais, ouais.
Très peu connu.
Très peu connu, même des Québécois, maintenant.
Tout à fait. C'est vraiment les Américains qui en profitent. Les Québécois passent tout droit pour aller à New York.
C'est ça.
Sans s'arrêter. Sans même se douter que ça existe, donc c'est encore pire. À Saint-Frédéric, Père Calme rencontre un officier militaire de carrière qui a œuvré un long moment dans le pays des Illinois, donc dans les Grands Lacs, et il raconte qu'il a vu la carcasse d'un éléphant. Il se rappelle que la trompe était pourrie dans un marais, et évidemment, c'est les vestiges de ce qui serait un mammouth, selon toute vraisemblance. Il a vu ça, et les Autochtones de la région ne savaient pas trop ce que c'était quand on leur a demandé, et eux, ils se disaient, ça devait être le maître de tous les castors. Donc, c'est vraiment. et Père Calme raconte que les ossements sont restés sur place, on les a pas récupérés. Donc, on n'a pas le fin mot de l'histoire.
Il faudrait aller voir. Je ne sais pas si c'est comme le parc quartier Brébeuf que oui. Ça a été rempli de... Ça a été du remplissage, puis on trouverait juste des bouteilles de Pepsi.
Mais sur une carte, on voit l'emplacement. Il y a quelqu'un qui avait fait une carte et on voit l'endroit où le squelette a été trouvé.
Ah oui.
Calme arrive à Montréal en juillet, donc il arrive dans le cœur de la colonie. Il fait très chaud et là, il découvre un peuple neuf qui a à peine 100 ans d'existence. Il est très impressionné. Il raconte ce qui le marque vraiment et il note notamment l'extrême politesse dont il bénéficie, qui est à l'inverse de ce qu'il a connu dans les provinces anglaises qui allaient devenir les États-Unis. Mm-hmm. Il dit qu'il y a toute la différence entre le ciel et la terre, le blanc du noir, entre l'accueil chaleureux qu'il a eu au Canada et ce qu'il a connu au sud. Donc, de Montréal, il passe à Québec.
On est fin depuis longtemps.
Bien, on voit un peu l'espèce de comment dire...
Mentalité
sympathique.
État d'esprit,
oui, qui n'est pas très élitiste, qui est plutôt... c'est ça, chaleureux.
Tocqueville a remarqué un peu la même chose, après quoi, en 1831, 1800...
Dans son voyage au Canada, c'est ça, c'est comme une continuité.
Oui.
Ce qui est notable, c'est qu'on pourrait penser que c'est le propre des sociétés nouvelles, mais Calme, il voit vraiment une différence entre deux sociétés nouvelles qui rencontrent l'anglaise, de la Nouvelle Angleterre, et la française du Nord, donc il note ça. Il arrive à Québec en août 1749, il est reçu par le marquis de la Galissonnière, qui est un homme vraiment impressionnant, c'est un scientifique dans l'âme, il s'intéresse à toutes sortes de choses, et il le compare à l'évêque Pontbriand, qui n'est qu'un grossier paysan sans savoir vivre. Donc, il y a un contraste, et... donc, il visite la capitale de la Nouvelle-France, on est seulement 10 ans avant le siège de Québec de 59, pendant lequel la ville va être rasée par les bombes britanniques du général Wolfe. Donc, on est vraiment à toute fin de la Nouvelle-France. Et encore une fois, à Québec, il rencontre un autre militaire qui lui raconte qu'il a vu une plaque couverte d'inscriptions qui rappelait la langue tartare à 3000 km à l'ouest de Québec, donc près des Rocheuses. Et là, ça intrigue vraiment Peur Calme et il note tout ça comme... évidemment, à l'époque, il y a une espèce de tendance chez les explorateurs de chercher une civilisation chrétienne passée qui serait disparue, qui aurait laissé des traces. Donc, on voit des croix un peu partout dans les pierres, dans la forêt. Donc, on cherche vraiment, mais évidemment, c'est ça. C'est tout simplement l'érosion qui avait créé ces traces-là, comme Calme l'a vu lui-même en revenant dans les provinces anglaises, en passant par le lac Champlain. Il a vu des colonnes de pierre qui semblaient vraiment surgies de nulle part, déposées là par une civilisation ancienne, alors que c'est tout simplement l'érosion qui peut créer cette illusion-là. Donc,
heureusement qu'il n'est pas allé aux îles Mingan.
Oui, en effet.
Oui. Il aurait dit, il y a quelqu'un qui a sculpté ça, ça n'a pas de bon sens.
Ou au rocher percé.
Oui.
Donc, c'est ça.
Était-tu percé à l'époque déjà?
Il était percé de deux trous.
Ah oui, OK. En oui, c'est vrai.
En 1946, que le premier trou s'est effondré, puis le deuxième va suivre dans quelques centaines d'années, sans doute.
Je referme la parenthèse pardon.
Du rocher percé.
Oui.
Calme revient dans les provinces anglaises, donc à la fin de l'année 49, et il est resté en Nouvelle-France seulement 130 jours, mais il va tirer de ça un récit de voyage fascinant. Il a été édité en français dans les années 70, donc c'est à lire.
Ça mériterait d'être réédité, peut-être?
Oui, et peut-être purger aussi des passages qui concernent la botanique, parce que lui, c'est un botaniste à la base, Peur Calme, donc il y a des longs segments où il décrit les plantes. C'est bien, mais en même temps, c'est un peu lourd. Là. Je pense qu'on pourrait en tirer un
mais petit... en même temps, les botanistes trouveraient ça extraordinaire.
On pourrait faire deux livres, donc un pour
c'est
eux
ça.
Et l'autre pour un peu plus large public.
Maintenant, tu veux nous parler du dernier numéro de la revue Capodiamant?
Oui, qui est sorti récemment. Donc, Capodiamant, c'est la revue d'histoire fondée en 1985, qui est dirigée par Yves Beauregard. Le dernier numéro s'appelle tout simplement « Le Québec, nid d'espions communistes ». Là-dedans, il y a plusieurs textes intéressants, dont celui de Sylvain Lombroso sur Raymond Boyer. Donc, Raymond Boyer, qui est-il? C'est un bourgeois de Montréal. Il fait des études en chimie. Il est né en 1906 et il va rapidement étudier à Paris, à Vienne. Donc, il voyage beaucoup à une époque où on voyage un peu moins. Et à la fin des années 30, il écrit à un sous-ministre à Ottawa pour proposer son nom comme candidature pour représenter le Canada en URSS. Donc, il s'intéresse beaucoup à l'URSS avant la guerre, ce qui est un peu louche. Et par la suite, en 1940, il rencontre Anita Cohen, une femme d'origine juive de Montréal, qui le convainc de se convertir à la religion juive pour l'épouser. Et par elle, dans le fond, il rencontre Fred Rose, qui est qui est très connu, on va en parler plus tard un peu, tente de le convaincre de livrer, parce que lui, c'est un chimiste, donc il travaille sur un projet pour développer un super explosif qui succéderait au TNT. Ça s'appelle le RDX, donc il travaille là-dessus à Montréal, et Fred Rose veut le convaincre de livrer le RDX aux Russes, dans le contexte, c'est ça, de la guerre, parce que là, on est vraiment plus en 43, donc la Russie, le RSS est envahi par l'Allemagne nazie. Mm-hmm. Donc, Boyer veut vraiment s'impliquer pour aider les Soviétiques. Et donc, ses contacts avec Fred Rose finissent par être révélés et il va être enfermé à Saint-Vincent-de-Paul pendant 2 ans, de 1948 à 1950. Donc, c'est vraiment un premier espion pour le compte des Soviétiques.
C'est fascinant,
au Québec, dans le Québec de l'époque.
Et Rose, est-ce que c'est un rapport à la famille Rose
Front de Libération? D'ailleurs, ça vient de Fichel Rosenberg, de son vrai nom. Puis d'ailleurs, il y a un texte de Pierre Anctil, le professeur de l'Université d'Ottawa, sur ce personnage-là, qui est né en Pologne, qui arrive à Montréal en 1920, où il devient apprenti électricien. Et dans les années 30, il devient agent du NKVD. Et c'est ça, il est élu premier député communiste au Canada, mais dans le parti qu'on appelle le Parti ouvrier progressiste, dans la circonscription montréalaise de Cartier. Donc, premier député communiste en 43, réélu en 45. Et ses activités vont être révélées dans le courant un peu après la guerre. Il va devoir quitter le Canada en 53. Et en 57, le gouvernement de Louis Saint-Laurent lui retire sa nationalité. Donc, il n'y a aucun lien avec la famille Rose qui va participer à la crise d'octobre de 1970.
Quitter le pouvoir maintenant, on fait cette série là, depuis plusieurs semaines, puis on est rendu à René Lévesque, donc dans les 100 dernières années, les premiers ministres qui ont dû quitter le pouvoir à un moment donné. Et là, c'est drôle parce que la semaine passée, on parlait du centenaire de la naissance de René Lévesque, puis tu disais presque qu'on parlait trop de René Lévesque.
Oui.
Et là, cette semaine, c'est toi qui es obligé d'en parler.
C'est ça, ben on est rendu là, donc on doit y passer. C'est ça, René Lévesque, pas besoin de présentation, il est au pouvoir de 1976 à 1985. Il annonce sa démission le 20 juin 1985, en fin de soirée. À 23h15, René Lévesque, à ce moment-là...
Est-ce que c'était pas un vendredi? Parce que je me souviens que dans ses mémoires, il raconte qu'il veut taquiner les journalistes puis les forcer à travailler un vendredi.
Il leur en veut un peu. Donc, il s'arrange pour faire son annonce sur une agence de presse en fin de soirée, après les bulletins de nouvelles. Et ça fonctionne. D'ailleurs, tout le monde est en panique. D'ailleurs, le reporter de Radio-Canada, Claude Desbiens, avec son caméraman, il file à l'Aquarium, qui était le restaurant... il y avait un bar à l'intérieur, donc dans lequel les politiciens se tenaient sur la rue Sainte-Anne.
Oui.
Et il rencontre Guy Chevrette, Bernard Landry, mais René Lévesque n'est pas là. Lui, il passe sa soirée seul dans son appartement de la rue d'Auteuil.
Oui.
Il fuit les médias c'est comme ça qu'il annonce son coup de théâtre. Les causes de son départ ont été expliquées par Martine Tremblay, son ancienne chef de cabinet, dans son fameux livre « Derrière les portes closes ».
C'est le meilleur.
Le meilleur qu'on peut trouver.
Le meilleur livre.
Tout à fait. Elle rappelle qu'il souffrait de fatigue à compter de l'automne 84. Que d'ailleurs, à la séance du 17 décembre au Salon Bleu, il avait éteint sa cigarette dans le verre d'eau de son voisin de pupitre. Et il était vraiment un peu... il n'était plus tout à fait là. Mm-hmm. Et en janvier 85, il est soigné à l'Enfant Jésus. On l'amène un peu de force parce qu'il veut... René Lévesque ne prenait pas soin de sa santé. Il fuyait les médecins, alors qu'il en avait plusieurs dans son cabinet, des députés, des ministres médecins. Donc, c'est ça, il ne va pas très bien. Le parti non plus ne va pas très bien. Le PQ perd 4 partiels le 3 juin. Les partiels qui étaient rendus nécessaires par le départ de Parizeau, Lazur, Vaugeois et Camille Lorrain. Donc, ça ne va pas bien du tout.
C'est du lourd.
C'est ça.
Quand tu perds ces personnages-là, c'est que ça allait vraiment pas bien. Bon, il faut rappeler que René Lévesque voulait comme mettre la souveraineté sous le boisseau.
Oui, on était en plein dans le beau risque où là, on voulait donner une chance au gouvernement conservateur fédéral de Brian Mulroney. Ça causait beaucoup de départs. À l'été 85, donc, c'est ça, son départ est annoncé. On est dans la course à la succession. Lui, il pousse sa protégée Francine Lalonde pour qu'elle se présente à sa succession, mais elle veut pas y aller. Donc, ça alimente son désintérêt pour la course. Et lui, pendant l'été 85, il va faire du tourisme, il va visiter la prison d'Alcatraz, alors qu'il sort d'une prison politique, en quelque sorte.
Oui.
Il va voir là-bas. Et c'est ça, à la mi-août, il est toujours premier ministre, il reçoit le nouvel ambassadeur du Canada à Paris, un certain Lucien Bouchard, au Lac à l'Épaule. Donc, René Lévesque demeurait attaché au lac à l'épaule. Et Lucien Bouchard nous a raconté à mon collègue Marco Belair-Cirino et moi comment ça s'était passé. Là. Lucien Bouchard arrive au chalet, ce fameux chalet du parc des Laurentides. René Lévesque émerge du lac, le reçoit, il joue aux cartes.
Il se baignait?
Oui, il s'est baigné dans le lac, oui. Et c'est ça, et en soirée...
Tu as un extrait sonore de
J'ai pas d'extrait
Bouchard?
Sonore, non, malheureusement.
OK.
Mais c'est ça, et René Lévesque, en soirée, lui racontait ses souvenirs du chalet. Donc, c'était vraiment un bon moment pour lui. Et Lévesque, vraiment, il va comme prendre Lucien Bouchard sous son aile en lui disant « Va à Paris, fais ce qu'il faut. » Puis alors qu'il court-circuitait un peu le délégué général du Québec à Paris en communiquant directement comme ça avec l'ambassadeur du Canada.
Qui était qui à l'époque? Est-ce que c'était Yves Michaud ou Louise Baudouin?
Il faudrait revoir, oui. Okay. Pour ce qui est du départ donc, de René Lévesque, c'est ça, la chefferie se termine avec la victoire de Pierre-Marc Johnson, le fils de l'ancien premier ministre. Il l'emporte avec près de 60 % des voix devant Pauline Marois, qui en reçoit seulement 20, qui termine deuxième. Et là, c'est les soirées hommages qui s'enchaînent. La fameuse soirée du 27 septembre à Montréal, où là, on donne à René Lévesque, le Parti québécois donne à René Lévesque une carte de voyage illimitée en avion. Et c'est là qu'il déclare « Je crois avoir saisi le message. Ne partez pas sans elle, M. Lévesque, mais partez, par exemple. » Et puis, c'est ça. Donc, la transition des pouvoirs avec Johnson se fait du 30 septembre au 3 octobre. Là, on transfère les dossiers. Et selon Martine Tremblay, Daniel Johnson aurait espéré qu'il y ait un peu plus de chaleur dans ce transfert-là.
Ah oui.
Johnson aurait aimé ça que Lévesque soit plus près de lui, mais ça n'est jamais vraiment produit. Et donc, ça se termine aussi, c'est ça, le 2 octobre 85, on a une soirée René Lévesque sur le gris, où là, c'est une espèce de bien cuit avec 1500 convives. Et à la fin du repas, on lui remet une toile de Bordua évaluée à 25 000 $ 60 000 $ en dollars d'aujourd'hui. Donc ça m'a un peu étonné.
Fascinant.
Et c'est ça. Donc, 3 octobre, c'est Johnson prête serment devant le lieutenant-gouverneur du Québec. René Lévesque, lui, s'allume une cigarette un peu par réflexe à ce moment-là. Et il s'éclipse rapidement. Et par la suite, c'est ça, dans son après-carrière, il va publier son autobiographie « Attendez que je me souvienne » ou « Que je me rappelle ».«
Attendez que je me rappelle ».«
Attendez que je me rappelle », oui, c'est ça. Et qui va être un succès de librairie.
Pierre Bourgault va répondre quelques années plus tard « Moi, je m'en souviens ».
Oui, c'est ça, exact. Il est chroniqueur au Journal de Montréal, il collabore à CKC.
Oui.
Et finalement, il décède le 1er novembre 1987 à l'âge de 65 ans seulement.
Ah oui, 65 ans. C'est plus jeune que ce que je pensais. Et on va écouter maintenant Bernard de Rome de Radio-Canada qui présente les obsèques de René Lévesque quelques jours après sa mort.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Les Québécois ont accompagné René Lévesque jusqu'à la fin avec le même respect, la même sincérité, la même émotion qu'ils n'ont cessé de lui manifester depuis dimanche soir. Ils l'ont accompagné de l'Assemblée nationale où il a passé près du tiers de sa vie jusqu'à la Basilique Notre-Dame de Québec où s'est déroulée une cérémonie religieuse solennelle mais quand même empreinte de sobriété.
Bien, merci beaucoup, Dave Noël.
Merci, Antoine.
Et on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique « Les actualités de l'histoire ».